Bonsoir à toutes et à tous, et maintenant comme tous les mercredis soirs, c'est Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Bonsoir, vous êtes
bonsoir.
Radio Canu.
Et bonsoir.
La parole.
Du coup, ouais, bah écoutez, on dit bonsoir, quoi. Voilà, quoi. Donc, du coup, voilà, première émission de l'année 2017. Hein.
Wow.
Voilà, c'est la bonne année. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part une bonne année de lutte et de lutte et de lutte et de lutte et de victoire, en espérant que ce soit un peu mieux que 2016, un peu mieux que 2015 et un peu mieux que 2014. Même si l'année va être compliquée, voilà, on espère qu'il se passera de belles choses pour cette année 2017. Toucher au bouton. Et puis, comme d'habitude, pour le début de l'émission, on va faire quelques annonces. Voilà, donc l'émission d'avant, là, du coup, le Canuophone, on a déjà parlé, mais on le refait si vous n'étiez pas sur l'antenne du Radio Canu. Il y a un rassemblement, donc demain, le jeudi 5 janvier à 18h, devant les locaux de l'Office, au 22 rue de l'Effort, dans le 7e, au métro Debourg. Voilà, donc c'est l'initiative du collectif Jamais sans toi, voilà, qui a beaucoup œuvré hein, dans les mois qui ont, dans la fin d'année, hein, mois de novembre, décembre, pour essayer, voilà, qui peut se féliciter, comme le dit le communiqué, que les nombreuses mobilisations dans les écoles et collèges de l'agglo aient permis à environ 50 élèves et leurs familles d'être mises à l'abri par les services de la préfecture. Nous avons appris avec dégoût que certaines d'entre elles subissent un chantage de la part des services de la préfecture. Le chantage est assez ignoble, hein, c'est une mise à l'abri temporaire, donc du coup, que ça pue dans la rue, hein, contre une signature. Pourquoi? Alors, pas pour des papiers, hein, pas pour de l'aide, mais pour un retour au pays. Et s'il y a refus de ce signature-là, bah, c'est un retour à la rue. Alors on sait que du coup, le retour au pays, c'est maintenant pour toutes les demandes d'asile, tout ça, enfin, du coup, on le propose à toutes les personnes. Hein, on leur dit, voilà, c'est une chose qu'on vous propose. Hein, contre une petite aide, vous signez, puis vous repartez au pays avec cette aide-là. Quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on dit beaucoup, notamment aux populations roms. Voilà. Et donc là, c'est ce qu'ils proposent là. C'est notamment le cas des familles qui sont hébergées donc, dans les locaux de l'OFI. Donc l'OFI, c'est quand vous faites une demande d'asile, vous passez par la case préfecture en bas. Ils vous font tout votre dossier, ils retracent votre parcours, ils voient si vous mentez ou pas, ce que font beaucoup de gens, mais c'est normal. Il y a des relevés d'empreintes pour savoir si elles ont été prises ailleurs, pour savoir si vous relevez de ce fameux... Alors, je ne sais pas si c'est un accord, un traité ou je ne sais quoi de Dublin, à savoir que c'est dans le premier pays de l'espace Schengen dans lequel vous êtes pris, arrêté par la police et où sont pris vos empreintes, qui relève du coup de votre demande de droit d'asile. Donc quelqu'un qui se fait pécho par exemple en Allemagne, les empreintes sont prises, s'il vient en France, eh ben, on vérifie, on prend ses empreintes, ils sont enregistrés dans le fichier européen et donc du coup... Il y a une demande qui est faite à l'Allemagne pour savoir si l'Allemagne accepte que cette personne-là pose sa demande d'asile en France. Si l'Allemagne refuse, elle doit retourner en Allemagne. Si l'Allemagne accepte, la France peut aider sa demande d'asile, mais c'est pas pour autant que ce soit accepté. Donc voilà, l'OFI, et donc quand vous êtes cassé par la passe préfecture, bah après vous montez à l'étage à la préfecture et vous allez dans les locaux de l'OFI, donc qui essaie de vous trouver un logement pendant la durée de votre demande d'asile, que le dossier soit traité, à savoir s'il est accepté ou pas. Il y a une petite aide financière. Voilà, puis après du coup vous débrouillez un peu avec les assos comme Forum Réfugiés pour essayer de vous dépatouiller de tout ça. Et ben du coup, donc certaines des familles, donc là, sont hébergés là-bas, donc locaux de l'OFI au 22 rue de l'Effort. Certaines familles y sont même assignées à résidence avec obligation de pointer au commissariat deux fois par semaine. C'est assez ouf, quoi. Donc le collectif Jamais sans toi dénonce fermement ce chantage abject et affirme que chaque enfant doit pouvoir suivre une scolarité digne, profitable et sans vivre le traumatisme d'une vie dehors ou d'une reconduite forcée dans un pays qu'il ne connaît souvent pas. Le collectif Jamais sans toi tient également à rappeler et dénoncer que plus de 100 élèves de l'agglomération lyonnaise et leurs familles n'ont toujours pas été hébergés et dorment encore dehors, et cela alors même que le plan d'hébergement d'urgence est activé depuis plus de 2 mois et que les températures sont au plus bas. Le collectif Jamais sans toi demande donc à nouveau au préfet que la loi soit appliquée et rappelle que l'hébergement est un droit inconditionnel pour tous et toutes. code de l'action sociale des familles. Donc voilà, on vous invite à aller nombreux et nombreux au rassemblement qui se passe donc demain, le 5 janvier à 18h au 22 rue de l'Effort dans le 7e au métro de Bourg. D'autres annonces, du coup ça se passera au bar de l'autre côté du pont, ça se passe c'est samedi 7 janvier, du coup c'est pour récolter des fonds pour payer l'électricité des familles en squat. On a déjà fait une petite annonce je crois avant les vacances pour une soirée qui avait eu lieu soit dans un autre squat soit à l'atelier des canulars, je ne sais plus, voilà, du coup pour payer, parce que du coup on leur réclamait je crois quelques 2 000 euros je crois de frais d'électricité à la famille, donc ils squattaient une maison, c'était un petit chantage là aussi pour dire bon on vous laisse dedans mais vous payez quand même 2 000 si vous voulez qu'on vous rebranche, vu le temps qu'il fait vous imaginez bien qu'ils ont besoin d'électricité et du chauffage. Donc voilà, c'était le 2 décembre. Voilà, j'avais pas lu, mais c'était le 2 décembre à l'atelier. Donc maintenant, c'est au bar de l'autre côté du pont que ça se passe. Donc du coup, avec toute une petite journée, enfin à partir de 15h, du coup, de soutien. Donc il y a des crêpes à partir de 16h, les crêpes de Papy Doki. Je ne sais pas qui est Papy Doki, mais voilà, c'est les crêpes de Papy Doki. À 19h, un repas surprise végète et à 20h30, concert de Bonk. On ne sait pas trop. Donc voilà.
Qu'est-ce que
ça se passe à l'autre côté du pont. C'est au 21 cours Gambetta. Bêta au métro Guillotière. Ensuite, si vous êtes du côté de Paris, ça arrive, ça peut arriver. Ce week-end, donc pour le samedi 7 janvier aussi, voilà, il y a à l'appel du mouvement des femmes kurdes. Alors, on a beaucoup parlé hein, des 3 militantes kurdes assassinées à Paris le 9 janvier 2013. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et bien, il y a toujours demande de vérité et de toute la vérité et enfin de la justice. Donc, manifestation le 7, Gare du Nord à 11h. Donc voilà, je ne vous lirai pas tout l'article. Vous pouvez le retrouver notamment sur le site Paris Lutte Info. Voilà, il faut savoir que l'assassin, du coup, est mort. Hein, du coup, celui qui avait été du moins arrêté est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Mais que du coup, on demande toujours, au moins que la responsabilité de l'État turc soit actée, mais ce qui va prendre des plombes, soit ça ne le fera jamais. Mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait encore des mobilisations, encore et encore, sur ces 3 meurtres-là. Donc voilà. Et si vous êtes du côté de Amiens, le 11 janvier, eh ben, on vous invite à tous y aller aussi. Voilà, parce que le 12 janvier 2015, eh ben, la justice. Je reprends. Parce que du coup, il y a l'appel par rapport à la relax des Goodyear, enfin la demande des relax des Goodyear. Le 12 janvier 2015, donc, soit il y a 2 ans, la justice condamnait des salariés de Goodyear qui défendaient leur emploi à de la prison ferme. Un an après, et de nombreuses mobilisations pour soutenir les camarades victimes d'un procès politique, eh ben, il y a demande de rassemblement de se retrouver pour les accompagner au tribunal lors du rendu public du jugement en appel. Voilà, il y avait une grosse mobilisation les 19 et 20 octobre dernier qui a permis d'obtenir l'abandon de la prison ferme. Et ben, maintenant, il faut être aussi nombreux et nombreuses pour aller chercher la relax totale. Voilà, c'est la seule chose qui satisfera tout le monde. Et donc tous ensemble à Amiens le 11 janvier à partir de 9h. Donc voilà, il y a un peu de partout des cars qui vont partir pour y aller. Et si vous n'êtes pas du côté d'Amiens, mais si vous êtes du côté de Paris, et ben il y a un rassemblement unitaire ce même 11 janvier 2017. C'est le jour de la présentation du projet de loi au Sénat pour l'abrogation de la loi travail. Pardon, c'est pour la présentation d'un projet de loi au Sénat pour que la loi soit abrogée. Voilà, la CGT avait dit qu'elle ne lâcherait pas sur le travail et c'est donc ce qu'elle fait. Et donc il y a un rassemblement rue de Tournon face au Sénat, métro Odéon, RERB, Luxembourg. Donc voilà pour ce qui se passe du côté de Paris. Et puis on va continuer avec ce sera un peu plus tard, mais on va en parler maintenant parce que je sais pas si on pensera à le faire ou si on le fera. C'est un appel à une journée d'action et de solidarité, c'est pour le 22 janvier avec les prisonniers et prisonnières trans. Voilà, donc le 22 janvier, c'est la journée de solidarité et d'action avec les prisonniers et prisonnières trans. Journée lancée l'année dernière par Marius Manson, prisonnier trans condamné à 22 ans de prison aux États-Unis. Donc voilà, et donc bah, c'est une petite journée solidarité. On essaiera peut-être d'en reparler, d'être un peu plus complet sur le sujet. Du coup, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce qu'on a encore un peu le temps. Et du coup, avant de passer à la première pause musicale, je vais vous lire. Du coup, vous n'avez pas non plus, même s'il y a eu un peu de vacances, peut-être pour certains et certaines, et fêtes de fin d'année, bah oui, vous n'avez pas raté que du coup l'état d'urgence a été de nouveau prolongé. Voilà, je vais vous lire du coup le communiqué de la CGA, de la coordination des groupes anarchistes sur ce sujet-là, dont le titre est « Non à l'état d'urgence permanent ». C'est quelque chose qu'on dénonçait déjà depuis le début. Hein, et voilà, on redoutait que ce soit remis. Bah, c'est le cas. L'état d'urgence vient d'être prolongé, et ce jusqu'au 15 juillet 2017. Avec cette 5e prolongation depuis le 13 novembre 2015, l'État pérennise un régime d'exception hautement liberticide. Au 15 juillet, cela fera 20 mois, soit plus d'un an et demi, que nous vivrons sous état d'urgence. Sans compter que la loi Urvoas, adoptée en mai dernier, a déjà intégré dans le droit commun une partie des mesures spécifiques à l'état d'exception. Nous devons refuser cette dangereuse banalisation de la restriction de nos libertés soumises à l'arbitraire du pouvoir politique et de sa police. Au cours de l'été dernier, nous avons dramatiquement constaté que l'application de l'état d'urgence n'a pas empêché des attentats d'être commis. En revanche, il a bel et bien permis de rendre illégal un certain nombre de manifestations. Alors notamment, c'est une petite liste, hein, en solidarité aux migrantes et migrants, contre la COP21, contre la loi travail, etc. Elle a aussi permis de prononcer des interdictions de manifester et ou des assignations à résidence de militants militantes, d'entretenir un climat raciste où les musulmanes musulmans et supposés tels quels sont stigmatisés, avec des milliers de perquisitions administratives de jour comme de nuit dans les quartiers populaires, la plupart sans justification. Et il a installé l'armée dans nos rues. S'il est vrai que toutes les dispositions de l'état d'urgence n'ont pas été appliquées, c'est bien parce que les réactions contre celui-ci ont été larges et fortes. Nous ne devons donc pas cesser notre vigilance. Surtout accepter le maintien de l'état d'urgence et permettre à l'État de se servir de ces mesures quand bon lui semble. Dans un contexte électoral qui favorise la surenchère sécuritaire, on ne peut qu'être inquiète et inquiet de laisser se perpétuer un arsenal législatif aussi liberticide. Quel que soit le gagnant ou la gagnante des élections présidentielles, les régressions sociales sortiront des urnes et certainement avec rapidité et brusquerie. Laisser l'État disposer d'un socle légal pour réprimer toute velléité de résistance est dangereux. L'ensemble des travailleuses et travailleurs et précaires doit se sentir concerné par ces atteintes à nos libertés, car l'état d'exception permanent n'est qu'une mesure sécuritaire de plus. Au-delà se joue la fin d'un état de fait, arraché par plus d'un siècle de lutte qui avait contraint la démocratie bourgeoise à acheter la paix sociale en échangeant la domination de quelques-uns sur toutes les autres, toutes et tous les autres, contre un minimum de redistribution des richesses produites et contre la liberté précaire, certes, d'affirmer son opposition. Cela fait plusieurs années maintenant que lois antisociales et mesures sécuritaires s'empilent, détruisant brique par brique ce qui avait été conquis. Mais l'accélération des attaques toujours plus profondes, tant sur les droits sociaux que sur les libertés, opère un basculement qui laisse entrevoir un changement de régime, porteur en germe d'un niveau de violence sociale et politique comme la France n'en avait pas connu depuis des décennies. Ce sont nos luttes et ce sont nos vies qui sont menacées. Le pire n'est jamais certain, alors nous ne nous y trompons pas. Si la classe dominante peut se permettre aujourd'hui de se passer de contrepartie, aussi insatisfaisante soit-elle, c'est qu'elle ne craint plus un rapport de force qui s'est trop estompé. La période est difficile, mais il doit y avoir de vieux chemins à emprunter à nouveau, de nouvelles formes à inventer, car seules les luttes collectives pourront nous offrir de perspectives émancipatrices à l'opposé de l'abîme que l'on nous promet. Nous devons donc continuer à dénoncer et combattre l'état d'urgence et l'ensemble des mesures sécuritaires et antisociales qui avancent main dans la main. Mais au-delà, nous devons dénoncer l'État en tant que tel, car il est le garant et le bras armé des intérêts de la classe dominante. Quand ses pouvoirs augmentent, nos libertés diminuent. Face à lui, construisons et affirmons une solidarité de classe sur le terrain social et non sur celui des urnes. Développons l'auto-organisation des luttes. Donc voilà pour ce communiqué de la CGA sur la nouvelle prolongation de l'état d'urgence. Voilà, en espérant qu'il y ait des choses qui se passent assez rapidement à ce niveau-là dans la rue. Voilà, pour pas se laisser non plus bouffer par ce truc-là. Et voilà, bah, suite à ce communiqué, du coup, on va se faire une première petite pause musicale, n'est-ce pas?
Ouais, alors du coup, c'est parti avec ZEP, zone d'expression populaire, et la chanson Inscrit, je suis arabe.
سجل انا عربي
ورقم
بطاقتي 50,000 واطفالي 8 وتاسعهم سياتي بعد صيف فهل تغضب سجل انا عربي واعمل مع رفاق الكدح في محجر واطفالي 8
Et j'ai 8 bambas.
رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر.
Je le tire des
ولا ولا أتسول الصدقات من بابك.
Le mon
ولا ولا أصغر أمام بلاط أعتابك.
Au porche de ton palais.
فهل تغضب؟
Et te voilà furieux.
سجل انا عربي
انسكريت
ولون الشعر فحمي ولون العين بني وميزاتي على راس عقال فوق كفية وكفي صلباء كالصخر تخامش من يلامسها واكلتي المفضله زيت الزيتون والزعتر
Et le
temps.
Mon
adresse. سجل انا عربي
كي جسوي اغاب
سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل إذن سجل برأس الصفحة الأولى أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد ولكني إذا ما جعت أكل لحم مختصبي حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي
On ne se moque pas, on est toujours sur Radio Canu et c'est toujours Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et on va repartir avec un point de lutte internationale. Si
il y avait comme une deuxième chanson qui se lançait, c'est ça, non ?
Non, je crois pas.
Non, ah oui, donc c'est une petite illusion auditive. C'est ça. Ouais, une petite rubrique vite fait, enfin pas vite fait, parce que du coup, mais internationale, pour parler un petit peu de ce qui se passe. Alors, on essaiera d'y revenir un peu plus en profondeur du coup la semaine prochaine, parce que ça risque de durer un petit peu, par rapport à ce qui se passe en Algérie. Ça, c'est mon miroir de casque, monsieur, vous m'avez pété les oreilles. Du coup, parce qu'il y a une grève presque générale, du coup, qui a été observée depuis les premières heures de la matinée de ce lundi, donc il y a deux jours, dans les quatre coins de la wilaya de Béjaïa. Les commerçants ne sont pas fait prier pour garder leur rideau baissé, donnant suite à l'appel partagé grandement sur les réseaux sociaux. Dans la ville donc de Béjaïa, très rares sont ceux qui n'ont pas suivi le mot d'ordre au début de la matinée avant de le faire par solidarité avec leurs collègues. Beaucoup ont fini par le faire aussi au passage de centaines de jeunes qui ont marché sur la wilaya en s'attaquant à des bus et à des institutions de l'État. Au début d'après-midi, l'émeute a éclaté au quartier de Dawadji, à deux pas du siège de la wilaya. Les forces anti-émeutes ont utilisé de bombes lacrymogènes face à des centaines de jeunes déterminés à en découdre. Ailleurs, sur le territoire de la wilaya, le mot d'ordre de ville morte a été de rigueur. Depuis Tazmal jusqu'à Kerata, en passant surtout par Agbou et Sidi Aïch, il a régné un climat de tension. Jusqu'au début de l'après-midi, dans ces dernières villes, par exemple, des jeunes ont continué à s'en prendre au commissariat de police où l'émeute a éclaté. Et ben, du coup, la journée de grève, et ben, ça a duré hier aussi. Donc, au deuxième jour de la grève générale des commerçants, la quasi-totalité des magasins sont restés fermés. Donc hier, à travers les 52 communes de la wilaya de Béjaïa, le mot d'ordre de grève contre la nouvelle loi de finances semble être respecté à la lettre par les commerçants. Du coup, après, ça revient un petit peu sur les affrontements qui sont passés la veille. Le bilan donc provisoire fait état d'énormes dégâts matériels, ils se sont bien amusés. Plusieurs magasins ont été pillés et des édifices saccagés, donc le showroom Condor, hein, le dépôt de la SNTA et l'agence de la Banque Française BNP, on va pas pleurer. Au centre-ville, de jeunes manifestants ont notamment incendié un bus des transports urbains et un camion des forces de police anti-émeute. Ils ont détruit tous les abris de bus des quartiers d'Idaïden, Nasseria, Amroui, Dawadji et Remla. Au niveau de la commune de Tazmat, le siège de la Sonel Gaz n'a pas été épargné par les manifestants en colère qui l'ont saccagé puis incendié. Voilà, notons que plusieurs commissariats de la Daïra, notamment ceux de Tichy, Sidaïch et Tazmat, ont été caillassés dans la soirée. La brigade de gendarmerie de Tazmat a également été attaquée, mais les gendarmes n'ont pas riposté. Par contre, du coup, il y a quand même plusieurs blessés enregistrés lors des échauffourées, pris en charge par les structures sanitaires, et il y a eu du coup quand même une centaine d'arrêtés suite à ces émeutes. Donc on va suivre ce qui se passe quand même là-bas dans les jours qui viennent, et puis on y reviendra s'il le faut la semaine prochaine. On va faire un petit tour en Tunisie maintenant, voilà, avec un truc vraiment très très classe, hein, de la part de SOS Village d'Enfants, donc qui est une association humanitaire, voilà, qui a mis fin à la période d'essai de l'une de ses membres, hein, parce qu'elle faisait mal son boulot peut-être, et ben non pas du tout, parce qu'elle était militante féministe et activiste pro-LGBT. Voilà, militer pour l'égalité entre les genres, pour la dépénalisation de l'homosexualité et pour les droits des minorités était devenu un obstacle pour garder son emploi ou un mâle qui risque de contaminer l'entourage de celui qui porte ses valeurs de justice et d'égalité. C'est la question posée. Eh ben, elle se pose parce que du coup, donc, cette militante féministe et pro-LGBT, quand elle annonce qu'une association humanitaire a mis fin à sa période d'essai après avoir investigué sur ses activités publiques, pensant que ses activités pourraient, du coup, influencer les enfants. C'est pas merveilleux, ça? Donc, suite à deux mois de travail dans le département de collecte de fonds en tant qu'assistante parrainage international, l'association SOS Village d'Enfants Tunisie a décidé de façon unilatérale de lui notifier de l'arrêt de sa période d'essai. Donc, c'est Najma Kousri, donc, cette militante qui a été donc, du coup, virée. La coordinatrice nationale m'a ensuite informé que la décision émanant du bureau national élu présidé par madame Yosra Chebi a été prise à la date du 26 décembre 2016 suite à un mois d'investigation au cours duquel une évaluation a été conduite non en rapport avec mes performances professionnelles, hein, mais dans le but de documenter sur ma participation à la vie publique en tant qu'activiste féministe et pro-LGBT. La militante a également tenu à dénoncer cet acte de discrimination qui n'est pas moins grave que la discrimination subie sur la base de la religion, de la race, du genre ou de toute autre forme de préjugé rétrograde et injustifiable. Donc voilà, elle tient aussi à protester contre l'accroissement de la stigmatisation des jeunes porteurs d'idées qui se retrouvent beaucoup trop souvent victimes d'attaques ciblées visant à les assujettir. Par ailleurs, du coup, elle souhaite rappeler à l'association que les droits humains sont universels et indivisibles et que la discrimination est un acte honteux qui n'est pas digne de l'état de droit et de la société moderne que nous souhaitons construire ensemble. Donc voilà ce qui se passe du côté du village d'enfants en Tunisie. Et je vous emmène maintenant au Mexique, du coup, où une athlète mexicaine, du coup, qui témoigne d'une agression, enfin, du coup, là-bas, on le sait, il y en a énormément, hein, sur les femmes, beaucoup de féminicides et beaucoup d'agressions. Voilà, donc cette femme s'appelle Ana Gabriela Guevara. C'est une ex-sprinteuse et sénatrice star dans son pays qui a été donc le sujet d'une violente polémique sur les réseaux sociaux suite à son agression. Donc ça s'est passé le 11 décembre 2013. Donc Ana Gabriela Guevara donc roule aux abords de Mexico. Donc cette femme a été donc championne du monde du 400 mètres en 2003 à Paris, médaillée d'argent au JO d'Athènes en 2004. Voilà, elle est en moto avec une amie. Elle se fait percuter du coup par une camionnette grise dont le conducteur a donné un coup de volant. La moto tombe, elle interpelle le chauffard. Deux hommes sont descendus du véhicule. Ils m'ont insulté puis frappé par derrière. Deux autres m'ont cogné dans les côtes, me faisant tomber à terre. Les quatre individus m'ont ensuite tabassé à coups de pied sur le visage et le corps. Son ami a juste eu le temps de filmer la plaque d'immatriculation du véhicule des agresseurs qui s'enfuient. Donc là, il rappelle dans l'article, on l'avait déjà fait, hein, sur d'autres interventions sur ce sujet-là, que chaque jour, donc, où 7 Mexicaines sont assassinées et 1200 agressées dans un pays où plus de la moitié des femmes déclarent avoir subi des violences. Malgré un trauma facial, des fractures à la pommette droite, la victime parvient à rejoindre une patrouille de police qui la conduit à l'hôpital. Après une opération chirurgicale, la championne de 39 ans poste des photos de son visage tuméfié sur les réseaux sociaux. Donc celle qui est considérée comme la plus grande sprinteuse mexicaine du 21e siècle est suivie par plus de 22 000 personnes sur son compte Twitter. Les messages de soutien affluent, bah, tout comme les moqueries et les insultes. Voilà, au point qu'un hashtag est apparu. Je vous fais pas en espagnol parce qu'on va encore se moquer de moi. Donc c'était du coup le hashtag, c'est frapper les femmes, c'est du bonheur. C'est quand même incroyable. Voilà, donc il y a plusieurs trucs, hein. Pour qu'elles apprennent à ne pas sortir de la cuisine, écrit un internaute. Si tu es moche et que tu conduis une moto, les gens penseront que tu es un homme. S'amuse un autre. Regardez ce que je lui ai fait à ma copine, proclame enfin un autre utilisateur du réseau social qui accompagne son tweet du même hashtag. Deux jours après l'agression, donc Ana Gabriela Guevara organise donc une conférence de presse au Sénat, parce que du coup elle est sénatrice, cette nana. Elle retire sa lunette noire qui masque un hématome autour de l'œil droit. D'une voix rauque, post-opératoire, elle traite ses agresseurs de lâches, éclate en sanglots, puis se reprend. Cette marque sur mon visage, ces clous et ces plaques me rappelleront en permanence mon combat contre la violence de genre. J'ai été attaqué uniquement parce que je suis une femme. Voilà, donc il est rappelé du coup les chiffres un petit peu que je vous ai donné tout à l'heure. Voilà, plus de la moitié déclare avoir subi des violences. Voilà. Le terme féminicide donc, est inscrit quand même dans la loi depuis 2007. Voilà, donc elle rappelle, j'ai été attaquée uniquement parce que je suis une femme, condamnant aussi les attaques sur les réseaux sociaux qui revictimisent des femmes déjà agressées. Donc voilà un peu ce qui se passe du côté. L'un des agresseurs, du coup, est un ancien policier. Ça fait toujours un plaisir. Hein. L'affaire Guevara a rebondi donc mi-décembre. L'identité du conducteur de la camionnette a été révélée. Il s'agit donc d'un ancien flic, renforçant la vague d'indignation dans les médias et sur les réseaux sociaux. Même le président, qui pourtant pas... un copain, hein, le Enrique Peña Nieto, a déclaré que son soutien donc à la sénatrice. Quant au ministre de l'Intérieur, il a reconnu que l'affaire rend visible les conditions de milliers d'autres femmes. Donc en face, les proches de l'accusé contestent les faits, assurent qu'il a confondu Ana Guevara avec un homme, bien sûr. Je n'accorderai pas mon pardon à tel averti, bien décidé à mener un combat contre l'impunité. Au Mexique, la plupart des femmes agressées, du coup, ne portent pas plainte, parce que vous avez vu bien ce que ça donne. Voilà, ça se passe au Mexique, ça se passe dans beaucoup de pays d'Amérique latine, dans beaucoup de pays européens. Et aussi en France. Donc voilà pour cette toute petite page internationale. Et puis on va faire un premier jet de lutte sociale. Voilà, je pense qu'il...
Allez, c'est parti pour des luttes sociales. Et on va partir même en Martinique, où il fait quand même très chaud, du moins plus chaud qu'ici. Et c'était le 13 décembre, avec une grève d'une semaine à cette date pour les employés de Chronopost du coin. Donc je rappelle, hein, Chronopost, c'est une filiale de la Poste. Qui est spécialisé dans la livraison de colis, voilà, avec une dénonciation des conditions de travail. À ce jour, donc le 13 décembre, il y avait 500 colis qui étaient en attente, hein, puisque ce sont des colis, évidemment, il y avait les fêtes qui arrivaient. 20 salariés, donc épuisés par le rythme imposé. D'autant que par ces périodes fêtardes, évidemment, les colis affluent. Il et elle donc souhaitaient des négociations pour arranger les bidons des 30 employés de Chronopost. La direction n'a pas bronché à cette date. Par contre, sur les réseaux sociaux encore, là, on a entendu des choses, ou lu plutôt des choses assez ignobles, comme la prise en otage des consommateurs, qui étaient notamment en tête des reproches et des insultes.
Voilà. Soit ils arrêtent de faire la fête de Noël, soit ils vont s'acheter ces petits cadeaux avec leurs petites pattes, puis c'est résolu.
On va revenir sur la métropole avec la capitale, Paris, avec une grève reconduite chez cette grande dame que l'on nomme la Tour Eiffel. Le 14 décembre, de fait, madame, la Tour Eiffel a fermé ses portes. Conflit, c'est une direction qui ne bouge pas une oreille. C'est la SET, la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Est dénoncé par les salariés l'infécondité du dialogue social, le manque de transparence sur les décisions stratégiques. En exemple, il donne une campagne de peinture, donc une beauté qui devait normalement se refaire sur la Tour Eiffel. Ça se fait régulièrement, dont le personnel n'a pas été informé et qui, selon ce personnel, représenterait des risques pour les salariés et aussi à la fois pour les visiteurs et les visiteuses de la Tour Eiffel. Une peinture qui contient du plomb. Il y avait eu le même problème en 2012, ce qui fait dire à un petit parisien, ce n'est plus la dame de fer, mais plutôt un soldat de plomb. Je crois que c'est moi qui ai dû l'inventer.
C'est toi, Titi.
Il me semble. Mais ça date de loin, parce qu'en fait, comme on a eu deux semaines de vacances... Oui,
c'est ça. Du coup,
t'as
écrit des blagues, donc je ne me souviens plus. Quoi.
Voilà, donc, je rappelle aussi qu'il y a eu quand même... Elle tient la route, cette dame de fer, là, puisqu'il y a eu un morceau de la Tour Eiffel, un tronçon, ce qu'on appelle d'un escalier, qui a été vendu quand même 500 000 euros. C'est un morceau d'escalier qui datait de 1889. Elle part en morceaux, quoi. Bref. Arablois, maintenant c'est dans le 45, département 45, c'est une prime d'intéressement qui risque de passer à l'as, et hop, une colère qui naît chez 410 salariés de la société SCA Tissu France et quasi 100% de grévistes avec blocage de la production. Alors, on n'a pas connu ça depuis 1986, et là je cite des paroles de CFDT. Depuis 1986, c'est pour vous dire qu'il devait y avoir des toiles d'araignée quand même pas mal à enlever. Donc la prime, c'est sûr, est un intérêt pour les travailleurs qui équivaut quand même à 16,5% de leur salaire. La direction leur chourave 7% de cette prime. Alors pas de salisette, il était prévu la suppression totale de cette prime si les objectifs ne sont pas atteints, c'est-à-dire 100%. C'est quasiment une mission impossible. Et ici, on retrouve le manque de dialogue social. La direction rétorque, je cite encore, qu'elle n'a pas le choix à cause des évolutions législatives, ajoutant que la prime est facultative. Les collègues du Haut-Rhin ont suivi le chemin de la grève de cette même entreprise. Au fait, chez SCA, mais enfin c'est un petit détail comme ça qui m'a fait un peu rigoler, mais pourquoi ça m'a fait rigoler, allez savoir pourquoi. On fabrique du papier hygiénique et des mouchoirs de papier, comme on jette les employés d'ailleurs, comme des mouchoirs de papier, donc voilà. C'est une entreprise aussi qui est passée de main en main. Il y a eu 5 groupes qui se l'ont approprié depuis 1981, date de la création de cette entreprise. Alors ça s'est passé en 1986, en 1997, en 1998, en 2001 et en 2005. En mars 2016, 150 salariés se sont mobilisés pour des augmentations. En mai 2016, sur le site normand, il y a eu plus de 200 emplois qui ont été supprimés près de Rouen, dont les Kleenex, on les vire, près de Rouen, et 100
137 prévus en 2017. En 2015, le site de Saint-Cyr-en-Val était donc jugé redondant avec d'autres sites en Europe. Et là aussi, il y avait un risque de fermeture. À Pontoncombeau, maintenant c'est en Seine-et-Marne, avec des agents de la ville, 200 personnes qui étaient en manifestation devant devant leur patron, c'est-à-dire la mairie, en fait. Alors pourquoi ce courroux ? C'est un régime, leur régime indemnitaire, qui est en réforme aussi de ce côté-là. Mesure ou punition de la part du premier magistrat de la ville ? On peut se poser la question, son plan est pour lutter contre l'absentéisme. Une partie des indemnités sera retenue à partir du 8e jour d'absence dans l'année, c'est-à-dire 6,27 € par jour, pour des arrêts maladie, les accidents de trajet, etc. Applicable donc en septembre 2017. En fait, les agents sont contre une prime de présentéisme. J'avais jamais entendu ça encore.
Ouais, du coup, c'est pour...
Hein?
C'est beau.
Oui.
Du coup, pour pas dire absentéisme, du coup, plus t'es présent.
Oui, voilà. Donc, une prime d'assiduité, en fait. On est en plein infantilisme des salariés et donc un paternalisme réprobateur de la part donc de cette mairie. Et dénoncer également les contrats précaires, les bouches-trous, enfin, qu'ils appellent, les conditions aussi de travail pour cette mairie socialiste qui, comme un patron du CAC 40, compptent ses sous, l'absentéisme, ça représenterait pour eux 2,5 millions d'euros d'argent, en argent. Même état, même situation, c'est à Charenton, dans le département 94, donc du côté de Paris, avec un appel à gréver venant de la CFDT, des personnels de mairie. Ils et elles dénoncent et remettent en cause les négociations sur le temps de travail, un nouveau règlement interne de l'utilisation du compte épargne-temps, aussi la suppression de la journée de la fête des mères. Et encore, le manque de moyens humains aussi et financiers, qui est dénoncé, ils exigent un audit général sur les services et la politique de management actuelle. Et puis, pour finir cette première page, allons du côté de Saint-Brieuc, et ça concerne encore une fois l'amiante. C'est toujours d'actualité, l'amiante, hein. À Saint-Brieuc, on se rappelle, il y a eu 375 ex-salariés de Chafauto qui avaient amené leur direction à comparaître pour avoir exposé à la redoutable et mortelle amiante pendant des années. Ce 14 décembre 2016, le tribunal des prud'hommes a rendu son jugement sur le préjudice d'anxiété. Les ex-salariés devront verser 30 € par dossier à leur patron, disons, à Chafauto, qui en demandait en fait 800 €. Alors là, c'est encore une finesse de la loi qui a avantagé ici, évidemment, les patrons. C'est le délai de dépôt et d'instruction des dossiers. Je m'explique. Et auparavant, c'était 30 ans. Aujourd'hui, c'est 5 ans. Des dossiers n'ont pas été déposés à temps. Vous en doutiez. Alors, CQFD, les avocats de Chafauto ont eu cette aubaine pour eux. En fait, les salariés se sont désistés et ont renoncé à poursuivre la direction. La direction, elle, non. Elle a continué à poursuivre ses ex-employés. En 2014, Chafauto avait été condamné, je rappelle, à payer 8 000 € à 132 ex-salariés au titre de préjudice d'anxiété. Les dossiers de 277 autres ex-salariés devaient être entérinés par les prud'hommes. Une semaine plus tard, Chafauto signait un chèque de 2,2 millions d'euros pour les 132, mais les autres, donc les salariés retardataires, confrontés donc à l'évolution législative que je viens de vous détailler, des décisions successives de la Cour de cassation qui ont modifié les délais de prescription, de ces faits, les retardataires ont décidé d'abandonner et à renoncer à poursuivre la direction de Chafauto. A continué à les faire chier, quoi. Alors que quand même, il y a eu 3 morts depuis et 20 personnes touchées quand même par l'amiante ambiante.
Vous pouvez redire anxiété pour voir ?
Anxiété. Anxiété. Oui, non mais ça existe ça.
Je crois qu'il y a une pause musicale qui est prévue, très cher réalisateur de l'émission.
C'est parti.
Cabinet du docteur Fanon.
Ouais, bonjour docteur, je vous appelle là pour prendre rendez-vous, là, c'est assez urgent.
Bah, qu'est-ce qui vous arrive ?
Bah, j'ai des réactions toutes bizarres, là, je crois que j'ai vraiment chopé un sale truc.
Un virus, ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'est-à-dire ?
Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais, camarade, je suis français, mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, le sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais, camarade, je suis français, mais je me soigne. Élevé au Banania, Tintin au Congo, Astérix et les Gaulois, Tête Nègre et Pépito, aux petites vacances coloniales à Djerba, aux petites blagounettes racistes de bon papa, toxiqué par TF1, j'ai appris à les haïr, à les craindre, à m'en méfier, ou même à les maudire. Ils sont la cause de mes problèmes, parce qu'on m'a dit xénophobie. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, dans la cour des récré, c'était les cow-boys et les indiens. Alliés au visage pâle, donc du côté des haïkins, exterminer les apaches, les sioux et les comanches, sans pitié, imposer la suprématie blanche et normale. C'est nous qu'on est les meilleurs, les plus beaux, les plus forts, la race est supérieure, les civilisateurs, les démocrates, les visionnaires. Tout ça c'est écrit dans mes manuels scolaires, mais attention, je suis pas raciste, mon cœur est à gauche, généreux, humaniste, c'est pas du cinoche, et j'adore le Maroc, le Sénégal et Barbès, j'ai même adopté de petites négresses. Encore pire que la cage, le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Attention gros, viril mais correct, pas une tarlouse. L'homme idéal est un vrai mec, un French lover, un tombeur, un prince charmant. Je sais, j'ai fait ma formation dans les rayons d'Auchan pour ma sœur. C'était les Barbie, les dinettes, pour moi les G.I. Joe, les pagnoles et le survêt. Elle c'est la boniche, la cuisine et la coiffure, et moi le caïd avec mon flingue à la ceinture. Chacun son truc, son domaine de compétence. Je suis pas macho, tout ça c'est prouvé par la science. Nous c'est la logique, la force et le charisme. Elle c'est la tendresse, la douceur, le romantisme. Dans la pub, elles sont sexy et maternelles, et plus douées que nous, c'est sûr, pour laver la vaisselle. La nature est bien faite. Et toi chérie, où ce soir je te fais ta fête. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Être le meilleur dans la course à l'excellence, le mériter pour avoir la récompense. Mon logiciel est programmé depuis la petite enfance, compétiteur formé pour blackpooler la concurrence. À l'école on m'a dressé pour être le premier, écraser les autres et mépriser le dernier. Y'a pas de place pour les losers, les fainéants, les assistés, les faibles et les incompétents. Le pays des lumières a une image à défendre, un prestige, un honneur à prétendre. Et c'est pas avec des voleurs de poules, des clodos, des romano et des bougnoules qu'on pourra rivaliser avec les grosses puissances, imposer au monde toute la grandeur de la France. Alors soyons pragmatiques, le temps c'est de l'argent, et foutez-moi dehors toute cette bande de mendiants. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne.
Et c'est reparti pour Idées Noires. On est toujours sur Radio Canu 102.2.
Très belle transition.
Tu vois, j'y arrive.
Ouais, très bien. Oui, on va parler maintenant d'un quelque chose qui s'est passé du coup le lundi 26 décembre. Vous avez sûrement entendu parler de l'école maternelle d'Anne Frank du coup qui a été taguée. Voilà, je vais vous lire en fait le communiqué des Juifs et Juifs révolutionnaires de ce collectif-là. Il y avait un rassemblement qui était appelé du coup le 2 janvier, si je dis pas de bêtises. Je sais pas ce que ça a donné, du coup j'ai pas trouvé de trace de ce que ça avait donné, mais du coup je vais quand même vous lire le communiqué suite à cette tague là, et puis je vous lirai ensuite du coup aussi le communiqué de la coordination des groupes anarchistes région parisienne du coup qui appelait aussi à aller à ce rassemblement là. Je vous lis tout ça. Des inscriptions nazies ont été découvertes ce lundi 26 décembre 2016 sur l'école maternelle Anne Frank. Parmi les tags, on trouve « sale juif »,« sale rom », »,« à exterminer au plus vite », »,« Judenverboten », »,« juif interdit en allemand » pour marquer encore plus la référence nazie, ainsi que des croix gammées et des étoiles de David. Malheureusement, bien que particulièrement explicite dans sa référence à l'Holocauste, ce cas ne peut pas être considéré comme isolé ou comme une exception. Les tags de croix gammées sur des écoles, des synagogues, des mosquées, des centres LGBT et partout sont devenus monnaie courante en France et dans le monde. Il importe de prendre la mesure de l'obsession des racistes et des fascistes pour les croix gammées qui sont pour eux un symbole de ralliement et un message extrêmement clair quant au but qu'ils poursuivent. Car la réaction est trop souvent de considérer ces actes comme une anomalie, peu significative, à la marge d'une société qui aurait tiré les leçons du passé. À cet égard, les réactions qui insistent lourdement sur le fameux déséquilibre mental, entre guillemets, de l'auteur des tags, attire notre vigilance. Nous, juifs et juifs révolutionnaires, savons que le nazisme n'est en rien une maladie mentale et que penser cela serait à la fois minimiser le racisme de notre société en le poussant vers un phénomène marginal, exceptionnel, et stigmatiser les personnes qui ont des troubles psychiques ou mentaux. Nous savons également que la homophobie, l'antisémitisme et plus globalement l'idéologie raciste exercent leur influence bien au-delà des néo-nazis affirmés. Les déclarations racistes de personnalités publiques encouragent ainsi le passage à l'acte individuel ou collectif des nazis racistes. Rappelons qu'au cours de l'élection de Trump aux États-Unis, d'innombrables actes de violence anti-immigrants, immigrantes, racistes, LGBTophobes ont été commis aux États-Unis et dans le monde. Parmi ces actes, on trouve de nombreux tags de croix gammées explicitant l'aspect génocidaire de leur idéologie. Leurs auteurs ne prennent même pas la peine d'enrober sous une forme ne serait-ce que légèrement différente leur mouvement, héritier du KKK, du nazisme, du suprémacisme blanc, ils s'en revendiquent. Et comme le montrent les inscriptions Go Trump accompagnant souvent ces tags, ils font le lien avec le fait que l'extrême droite est passée ou en passe d'accéder au pouvoir dans de nombreux pays. Nous, juifs et juifs révolutionnaires, appelons donc à participer à ce rassemblement qui avait lieu donc ce lundi devant l'école Anne Frank. Dans un contexte où les actes racistes se multiplient et où les fascistes sont aux portes du pouvoir, nous appelons à nous mobiliser et témoignons notre solidarité à toutes les minorités victimes de ces violences, notamment la minorité rome, souvent oubliée dans une grande part du traitement journalistique ou politique qui a été fait de cette affaire. Pour mémoire, nous rappelons quelques exemples parmi tant d'autres qui témoignent de la vivacité de cette offensive néo-nazie. À Montréal, vous avez envie de tousser. À Montréal, on a trouvé des croix gammées et des graffitis pro-Trump dans un parc nommé en l'honneur d'Adam Yoche, MC des Beastie Boys, qui était juif. À Bordeaux, une soirée d'intégration, entre guillemets, tourne mal, échymoses et croix gammées dessinées au marqueur. À Comines, dans le Nord, une croix gammée et une croix celtique ont été taguées sur les volets de la mosquée El Rama dans la nuit du 6 novembre 2016. Au Mans, on trouve des croix gammées sur l'école Badinter et l'info se trouve dans un petit journal local mentionné après le vol d'une barre de fer. Les affaires croix gammées entre guillemets sont devenues si banales qu'elles ne sont généralement couvertes que par de petits articles locaux. À Denver, une femme trans trouve sa voiture taguée d'une croix gammée et de messages de haine transphobe et pro-Trump. Toujours à Denver, 4 jours plus tard, des croix gammées et messages de haine sur une école primaire. Parmi les inscriptions, une écrite en allemand. Nous sommes la jeunesse hitlérienne, revendiquons explicitement l'intention génocidaire. À Ottawa, c'est sur une mosquée que les croix gammées ont été dessinées avec l'inscription « Niggas ». À Pau, la rue Jean Jaurès a été couverte d'inscriptions nazies et de croix gammées. À New York, il y a des croix gammées dans le métro. En Floride, une église LGBTQ a été taguée de 2 croix gammées de l'inscription « Make America Great Again », qui était donc le slogan de Trump aux élections. En Ukraine, la synagogue Douman, considérée comme un lieu hautement symbolique pour la communauté juive ukrainienne, a été taguée de croix gammées aspergées de faux sang avec une tête de porc. Et en Californie, une synagogue est attaquée pour la 3e fois. Il y a 1 an, une lettre contenant une croix gammée et le message « Partez, vous autres juifs » avait été laissée dans la boîte aux lettres de la synagogue. Le 17 novembre dernier, un homme est entré et a fait un salut nazi et hurlé « Heil Hitler ». Ce 25 décembre, de la merde a été laissée sur la façade. Les Asiatiques américains sont également visés. Une lycéenne sino-américaine a rapporté qu'un homme s'est rapproché et lui a dit « J'ai hâte que Trump te déporte ou je te déporte moi-même, salope de Gwyn Jaune ». Au Texas, une autre rapporte qu'un homme lui a dit « Tu es asiatique, toi ? Quand ils verront tes yeux, tu vas être déporté ». Voilà, ça c'est encore... Voilà, c'est 13 du coup, qu'on t'ait trouvé, qu'on t'ait mis dans ce communiqué-là. Voilà, mais il y en a sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Voilà. Et je vous lis rapidement le petit communiqué, du coup, de la CGA région parisienne par rapport à cette histoire-là aussi, qui s'appelle, donc, dont le titre est « Combattons la homophobie et l'antisémitisme ». Voilà, donc les Conan Franck de Montreuil a été récemment la cible d'une série de tags appelant à l'extermination des Juifs et des Roms, faisant par ailleurs clairement référence au nazisme. Ces tags démontrent une nouvelle fois que l'antisémitisme et la romophobie, loin d'être des vestiges du passé, sont des oppressions bien réelles et actuelles qui touchent la minorité rome et la minorité juive au quotidien. Elles sont à combattre avec la plus grande détermination par toutes les personnes attachées à la lutte contre le racisme et à la construction de l'unité populaire face à toutes les manifestations du système raciste. Nous apportons notre soutien à la minorité rome et à la minorité juive touchée par cette manifestation raciste et plus particulièrement aux enseignantes et enseignants, parents d'élèves et élèves de cette école. Voilà, donc la CGA, fidèle aux valeurs du mouvement ouvrier révolutionnaire antiraciste, entend contribuer avec toutes celles et tous ceux qui se donnent cet objectif à briser toutes ces manifestations du système raciste, parmi lesquelles la romophobie et l'antisémitisme. Et donc elle avait appelé aussi à se joindre à ce rassemblement, du coup, qui s'était passé le 2 janvier dernier, donc il y a deux jours. Et bah, du coup, on enchaîne du coup avec la deuxième page de.
Ah, ouais, très bien.
Voilà. Bonjour.
Comment allez-vous? J'étais à l'écoute. Hein,
subjugué par mes propos.
Absolument. Non, mais c'est affolant tout ça. Enfin, bref. on va repartir du côté de la chaleur à La Réunion. Ça vous dit?
Allons-y.
À Saint-Benoît, exactement, avec une grève au GER. C'est le groupe hospitalier dont fait partie la clinique de la paix du groupe Clinifutur, hein, vous savez tout. Le 12 décembre, pas de négociation, donc la grève reconduite, et ainsi de suite, qui a entraîné donc un gel des admissions. C'est la CGT réunionnaise donc, qui drive cette lutte pour une augmentation salariale à 250 euros quand même. Modification de la convention collective sur les jours fériés avec retour au fonctionnement précédent. La direction courageusement s'appuie sur un nouveau modèle de financement qui date de mars 2016. Or, le groupe augmente ses profits sur plusieurs cliniques de Lille selon la CGT de La Réunion, donc qui voudrait bien en toucher un petit peu les bénéfices. À Asnières-les-Bourges, c'était le 16 décembre avec une grève de 80 salariés de FFDM pneumatique. Donc la cause ici de cette grève, sont les conditions de travail, les salaires, où il est réclamé plus de 3%. Contre le 1% de la direction et une prime de Noël à 300 euros qui manque à l'appel depuis 2 ans. Un rééquilibrage, je cite encore là, de l'effectif spécialisé dans les matériels pour soins dentaires. Ils sont 120 travailleurs et travailleuses. Et puis, ils travaillent aussi pour l'aéronautique, dont, selon la CGT, la production est totalement arrêté. À Lyon, il y avait une grève à Lyon qui a été reconduite, c'est à l'Opéra avec la CGT pour un gel des postes ainsi qu'au Célestin également. Il y a eu des spectacles annulés. C'est le personnel technique qui est touché là-dedans. Les négociations sont en stand-by depuis plus d'un an. Le mouvement à cette date était prévu pour durer jusqu'au 23 décembre. En Charente, sont les sapeurs-pompiers, cette fois le 15 décembre, qui ont entamé une grève illimitée. Les secours seront quand même assurés, hein. Pas de peur, hein, parce qu'il y a astreinte obligatoire, évidemment. Selon le syndicat SPP-PATS, alors ça, en fait, c'est une branche où ils sont accoquinés avec la CFDT, en fait, hein, qui est donc ce syndicat majoritaire chez les pompiers. 200 personnes sur cette lutte contre la direction départementale qui ne contribue plus aux indemnités, le régime indemnitaire catégorie C, alors que la catégorie A et B, donc les chefs, les cadres, etc., eux sont épargnés. 400 000 euros pour leur pomme. Donc ça fait râler un petit peu les gens de la catégorie C. Les autres, ils auront des miettes, donc ceux-là, en fait. Hein. Les revendications, c'est être traité comme tout le monde. La CGT a rejoint le syndicat donc autonome, ce fameux syndicat SPP-PATS. Là. La direction du SDIS invoque déjà le régime indemnitaire des soldats du feu est bien pourvu. C'est pas de la vie de tout le monde, apparemment. À Floirac, dans le 31, sont des ouvriers d'État qui n'étaient pas contents. Vous avez des ouvriers d'État, vous étiez au courant de ça?
Non.
Non, pas du tout. Eh ben, je suis heureux de vous l'annoncer, qu'il y a des ouvriers d'État et qui ne sont pas contents, et contentes, je suppose, aussi, puisque leur statut va changer. Donc, une réforme, encore de plus, hein, du gouvernement. En gros, leur salaire changera aussi, évidemment, car indexé sur la métallurgie, et qui seront désormais indexés sur le point d'indice des fonctionnaires, qui est, on le sait, gelé depuis 2010. Donc, pas heureux. C'est ainsi que chez AIA, donc les ateliers de l'industrie aéronautique, il y a eu des débrayages, manifs et rassemblements de syndiqués et de non-syndiqués organisés en assemblée générale le 12 décembre. 180 travailleurs et travailleuses ont occupé et interpellé le directeur jusqu'à tard dans la soirée. Alors apparemment, la personne en question, là, était pas très, le bonhomme n'était pas très rassuré. Le 15 décembre, 200 personnes étaient également dans la rue à Floirac. Il y a un autre site aussi qui a suivi donc la grève, c'est à Brest, où il y a eu 600 personnes de la DCNS. C'était le 8-12, c'est l'industrie navale militaire aussi, donc qui a des travailleurs d'État, des ouvriers d'État. C'est pareil que l'AIA, mais là, c'est l'aviation militaire. Les ouvriers d'État, pour expliquer un petit peu, je me suis penché sur leur cas, donc les ouvriers d'État sont non titulaires de droit public. Donc non considérés comme des fonctionnaires. En fait, ils et elles ont le derrière, on peut dire, entre deux chaises, hein, n'est-ce pas ? C'est une image. Hein. Et ils sont régis par des décrets qui datent de 1897, de 1920 et de 1936. Cet État, ces ouvriers, ce corps d'État, on va dire, a été créé au XVIIe siècle, rendez-vous compte. Et leur patron, c'est qui ? C'est qui leur patron ? C'est le ministère de la Défense. Voilà. C'est ça la situation, quand même. Hein, je ne voudrais pas être à leur place. Je continue ?
Oui.
Je continue.
C'est pas prêt.
Je continue. Guerre Léquin, maintenant, c'est dans le Finistère. Issue pas très heureuse pour les 195 salariés de Tilly-Sapco. Tilly-Sapco, hein, on en entend parler depuis quelques années, c'est cet abattoir et usine de transformation de la viande de volaille et de porc. La société se portait mal. On le savait, 134 salariés seront licenciés désormais, les 61 autres restants, ils fabriqueront des saucisses.
Ma foi.
Mais l'avenir.
Pourquoi pas, hein. Après tout.
Après tout. Donc l'établissement a été repris par, donc récemment, là, par Wegdam, une autre société donc hollandaise, si je ne m'abuse. C'est une décision du tribunal de commerce de Brest qui en a jugé ainsi après 3 plans sociaux. Et surtout des reprises successives qui ont dû, donc les successeurs se gaver au passage, évidemment. Une entreprise, encore une fois, qui a été créée en 1950. La société comptait 750 salariés, encore, en 1996. En 1984, là, ça a commencé à être un peu la merde, puisqu'elle a été rachetée par l'homme d'affaires, ça m'a beaucoup amusé, l'homme d'affaires milliardaire communiste. Rouge. vous rappelez tout ça ? Non, vous êtes un peu jeune, peut-être. Non, hein, il était au PCF, il s'appelle Jean-Baptiste Doumang, c'est un homme d'affaires, il faisait beaucoup d'affaires avec l'URSS d'ailleurs. Hein. Ouais. Ensuite, c'est la société Bourgoin qui rachète l'entreprise en 1987, puis il la refile à Unicopa. Puis, évidemment, ces dernières années, c'est le redressement judiciaire, et en juillet, c'est la fin des haricots. Auparavant, en décembre 2014, ils avaient été quand même sauvés des eaux avec la CCI de Morlaix. C'est pour vous dire dans quelles mains ça traîne, tout ça, ces affaires-là. Et puis d'un fonds d'investissement qui s'appelle MS Foods. 200 emplois avaient été conservés quand même. Puis le désinvestissement total. Et puis aujourd'hui, fin. C'est la fin. La FNAC des Champs-Élysées aussi, c'est dans le 8e arrondissement de Paris, c'était dès le 3 décembre avec une grève pour une journée de compensatrice de congé, donc due pour le travail dominical. et dénoncer aussi la disparité organisée de la direction pour le traitement des travailleurs et travailleuses parisiens et parisiennes entre eux et elles et les salariés des autres magasins. C'est pas pareil. Les points de vente de produits culturels donc en pâtissent de cette grève. Les préavis de grève tombent comme à Gravelotte. C'est un collectif d'élus du personnel qui a lancé la grève pour un meilleur paiement et une journée compensatrice au même titre que pour les autres travailleurs et travailleuses des magasins de la capitale. Voilà, en fait, aux Champs-Élysées, ils ouvrent tous les dimanches. Hein, ouais. C'est à Chypre. Hein. Ouais. Bah oui, c'est une zone touristique.
Tout à fait.
Monsieur Macron est passé par là. Et je continue.
Ouais. Encore une ou deux, puis après.
Ça ira, parce qu'après c'est. Hein
ouais.
D'accord. Eh bien, allez, Chanteloup-les-Vignes, c'est dans le 78, département 78, à côté de Paris aussi. Il y a eu 15 jours grévés au 21 décembre chez MC Syncro, qui est un équipementier auto qui fournit PSA à Poissy. Et la grève, on peut dire à cette époque-là, tenait bon pour des augmentations salariales et contre la précarisation des emplois. C'était d'ailleurs la principale revendication des grévistes, le recrutement des intérimaires en contrat à durée indéterminée. Et puis aussi 200 euros de mieux sur les salaires et une prime de 1000 euros et une répartition plus adaptée des bénéfices de l'entreprise. Mais qu'est-ce qu'ils vont demander là ? Une répartition plus adaptée des bénéfices de l'entreprise. C'est un peu se mettre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, mais enfin bon bref, il faut y croire, hein, il faut y croire. Contre donc les minables propositions de la direction. Alors pas pour tout le monde les minables propositions, puisque les actionnaires de cette entreprise en 2015 recevaient 10 millions de dividendes. Et quant aux intérimaires, ben, ils sont 12 à être reconduits de semaine en semaine. Il y avait quand même eu une première réussite en 2010, donc c'est bien aussi de faire la grève de temps en temps pour avoir des résultats. Quoi.
Tout à fait.
C'est pas toujours le cas.
Une petite lutte encore là, peut-être avant de terminer l'émission, il nous reste 4 minutes. Du coup, on avait suivi ça au mois d'octobre, c'était une lutte du coup chez Samsic, les femmes de ménage dans les toilettes de la Part-Dieu. Donc voilà, je vais vous lire un petit peu ce qui s'est passé. Du coup, parce qu'il y a une autre action qui a été menée, c'était juste avant les vacances, je crois. Voilà, avec nouveau les mêmes revendications qu'au mois d'octobre. Donc voilà, donc c'est les employés donc de la société donc Samsi qui assure le nettoyage des toilettes du centre commercial de la Part-Dieu. Eh ben, c'est une bonne nouvelle parce qu'elles ont gagné jeudi. Donc c'était avant les vacances. La requalification, merci, de leur statut après une nouvelle action coup de poing. Ce qui se traduit quand même par une hausse de salaire d'environ 600 euros par an. Donc voilà, c'est pas rien quand même pour ces femmes de ménage qui gagnent pas grand-chose. Mmh. Ça décrit un petit peu l'action. Voilà, au milieu du ronron bien huilé de la foule d'acheteurs de Noël qui se pressent sous les guirlandes bariolées dans les allées du centre commercial de la Part-Dieu à Lyon, une scène interpelle les passants. Devant l'Apple Store, du coup, le petit groupe s'est regroupé là-bas en criant « so, solidarité avec les salariés ». On avait passé quelques slogans là sur la dernière action et quelques chants. Voilà, armé de balais, de brosses AVC, de gants de latex, voilà. Donc ça a brisé un peu la monotonie des chants de Noël qui dégouinaient des haut-parleurs. Donc cette action a été faite en soutien du coup aux femmes de ménage qui nettoient les toilettes du centre commercial et qui revendiquent depuis le mois d'octobre, donc ça a quand même duré 3 mois cette histoire, des meilleures conditions de travail, un joyeux maelstrom d'étudiants, de salariés, de retraités aux côtés de diverses organisations, et notamment la CNTSO et la CGT. Voilà, donc comme la dernière fois au mois d'octobre, du coup il y a une dizaine d'agents de sécurité épaulés de quelques fonctionnaires de police qui ont enfermé la trentaine de manifestants et manifestantes derrière des cordons infranchissables pour que les gens puissent rejoindre les manifestants et manifestantes. Même les journalistes ont eu du mal du coup à passer. Donc voilà, c'est comme la dernière fois, hein, donc c'est rentré par petits groupes pour pas être chopé, parce que toute la journée du coup les gens de sécurité en fait ont suivi les femmes de ménage en pensant que c'était du coup qu'elles allaient du coup aussi rejoindre le truc. Donc voilà, donc là il y a parce que le pourquoi de cette grève, c'est que du coup les toilettes du centre commercial ont été requalifiées en 4 étoiles, donc une espèce de toilette de luxe. C'est ce qu'avaient expliqué du coup les salariés la dernière fois, c'est que du coup en gros à chaque passage de client, elle devait du coup nettoyer, elle c'était que pas beaucoup pour le faire et donc ça surchargeait, voilà, ouais, le travail de ces femmes là et du coup c'était pas possible, donc ils avaient demandé ça suite à la première grève. Donc
je comprends pas, ils devaient avoir l'aide des Des agents de sécurité aussi, non? Il n'était pas question de ça, non?
Non.
Pas, ça pourrait être le cas, apparemment.
Ah non, du tout, non.
Ah, mais j'avais entendu qu'ils auraient normalement l'aide.
A priori, non, en tout cas. Ou alors, soit ils ont fait semblant de pas les voir au départ.
Du moins, le soutien des agents de sécurité. Bah
après, moi, j'étais pas, mais en tout cas, de ce qui est dit là, non. Après, on pourra refaire un petit point plus tard s'il le faut. Du coup, suite à la première mobilisation du mois d'octobre, c'était la représentante de la section syndicale qui avait été mise à pied, puis licenciée pour faute grave. Voilà, on lui a juste dit qu'elle faisait mal son travail. Samsic, donc la boîte, n'a même pas pris la peine de demander l'autorisation de l'inspection du travail, voilà, parce qu'il comptait son mandat du coup de salarié protégé, quand même un DUS, hein, voilà, quand on est salarié protégé, qu'on doit se faire licencier, on doit passer par d'autres instances. Donc les manifestants ont fait beaucoup de bruit, donc forcément ça gêne un petit peu, hein, voilà, tous les commerçants, puis même la direction du centre commercial, ça fait toujours du bien de faire des actions là-bas, c'est assez rigolo. Les gens sont sortis du coup après, donc accompagnés par les agents de sécurité, ont attendu du coup ce que ça donnait l'entretien du coup des salariés avec la direction, et donc elles ont gagné donc la requalification de leur statut à compter donc du 1er janvier, donc là il y a quelques jours, pour tenir compte des tâches d'accueil qu'elles vont assumer en plus du nettoyage, donc soit une augmentation comme je l'ai dit tout à l'heure de 600 euros par an. Voilà, donc de quoi te passer des bonnes fêtes pour ces femmes qui ne gagnent que 1000 euros par mois environ pour 33 heures de travail hebdomadaire. Ce groupe-là, du coup, et après je finis, ce groupe breton, quand même, hein, c'est pas une PME, hein, c'est pas un petit groupe. Sa seule filiale propreté compte 47 000 salariés en Europe pour un chiffre d'affaires annuel de 580 millions d'euros. Voilà. Ils veulent pas lâcher quelques euros à ces femmes de
c'est
ménage.
Bien de donner des chiffres des fois, parce que
parce que du coup ça commence à bien
ça donne
faire.
Un petit peu la réalité des choses quand même.
Donc voilà, du coup on va finir là pour aujourd'hui. On va laisser la place à la lumière du frigo. On va quand même vous rappeler que si vous avez trop chaud chez vous et que vous allez avoir froid, vous pouvez venir nous voir aux permanences de la Plume Noire. Non, en plaisant dessus, parce que du coup les travaux suite à l'agression subie au mois de novembre sont pas encore faits parce que l'assurance ça chipote. Hein, voilà, ça appelle les experts.
On remercie aussi
ça dure longtemps.
Les
hein.
Nombreux donateurs.
Donc voilà, mais j'allais faire après. Donc du coup pour l'instant, du coup. Il fait plus froid qu'à l'habitué, du coup, mais on tient quand même les permanences les mercredis et samedis. Mais vous pouvez toujours, on remercie déjà beaucoup les donateurs et donatrices qui ont pas mal contribué à ce qu'on puisse après, du coup, continuer à faire fonctionner le local correctement. Et puis, le pot commun est toujours ouvert. Hein, vous cherchez un pot commun soutien à la librairie La Plume Noire. Et puis aussi, si vous voulez envoyer un petit chèque,
on reçoit des chèques
à l'ordre de La Plume Noire, voilà, au 8
rue Diderot. Très gentil, quoi.
8 rue Diderot dans le premier arrondissement. Donc voilà, on vous remercie bien. On vous laisse avec la lumière du frigo. Puis on vous retrouve, du coup, mercredi prochain.
Tout à fait.
Au revoir, bonne soirée.
Salut. Avant de passer à la lumière.